Les enfants de Chronos.
Bonjour, Régis Moreau pour Les enfants de Chronos, association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin. Un surprenant tripot, un redoutable balafré, des vice-rois d'Amérique, des favorites royales, l'inventeur de la chartreuse, des maréchaux, des amiraux, des huguenots, des cardinaux, de fragiles souverains, de puissants monarques, de puissants princes du sang, des murs qui tombent, des portes qui claquent, des routes qui détournent, des jardins qu'on dessine, la petite et la grande histoire n'ont pas de frontières étanches. À énumérer ainsi une liste improbable, il n'est pas facile de s'en rendre compte, mais laissons-nous guider à travers les ruelles de l'histoire. En divaguant de ci de là, on peut parfois croiser, au détour d'une rue ou d'une place, de mystérieux noms qui tranchent avec ceux des célébrités possédant avenues et boulevards dans toutes les communes de France. Le curieux, s'il est courageux, peut alors se lancer dans des recherches le menant à découvrir que telle allée est baptisée du nom d'une gloire locale, ancien maire ou poète natif du lieu, ou que cette ruelle sans âme porte le nom d'une activité aujourd'hui tombée dans l'oubli. C'est au détour d'une de ces étonnantes ruelles, dont le charme peut échapper aux rares promeneurs, que je me suis laissé surprendre par l'histoire. Pas la petite, la grande histoire, celle que l'on habille d'un H majuscule pour justement laisser penser qu'il y en a une et une seule qui mérite que l'on s'y attarde. Chose très discutable. La ruelle du Tripot à Nanteuil-le-Haudouin est de ces lieux étonnants au nom improbable. L'évocation d'un tripot en plein Nanteuil a de quoi surprendre. Qu'est-ce qu'une maison de jeu clandestine aurait fait dans cette localité ? Pourquoi un lieu de débauche et de trafic aurait donné son nom à cette paisible voie menant à la ruelle des eaux sauvages ? Oserait-on enfin imaginer qu'il ait pu exister là un bouge si récent que son nom n'ait pas été effacé dans les mémoires, comme la quasi-totalité du passé nanteuillais ? Tout cela mérite qu'on s'y attarde et pousse à interroger deux sources de première main que l'historien a souvent méprisées au nom de je ne sais quelle supériorité intellectuelle auto-supposée. Le premier corpus de sources à consulter est composé des autochtones eux-mêmes. Dans les mémoires nanteuillaises, point de trace de quelque lieu clandestin que ce soit dans les parages. L'érudit questionné, s'empressant d'ajouter, ne voulant jamais rester sans réponse, qu'en revanche, dans le château de Nanteuil, qui s'élevait près de là jadis, était sublime, mais qu'il fut détruit à la Révolution. Un autre, s'épand sur les mœurs légères de telles personnes qui vivaient dans le quartier à l'époque. À l'époque ? Quelle époque ? Il y a eu des époques à toutes les époques. Inutile d'aller plus loin. Point de tripot. Les archives ne témoignant pas dans les dossiers de police de la ville des affaires de prostitution ou de maisons closes particulièrement éclairantes, il faut s'en remettre au dernier refuge. Ce compagnon indispensable et pourtant si souvent oublié par les chercheurs, mais utile aux curieux, le dictionnaire. Il faut toujours s'en remettre à son dictionnaire. Dans les cas d'ignorance, place à la modestie. On ne peut pas tout connaître, il faut l'assumer, et il faut donc tout reprendre de zéro. C'est donc de ce fidèle mais négligé compagnon qui se montre d'un secours précieux. Tripot, substantif masculin, lieu où se pratiquait le jeu de courte paume. Espace de jeu au sens premier, le tripot était donc le lieu où l'on tripotait l'étoffe. L'étoffe est cette petite balle entourée d'étoffe, comme le laisse deviner son nom. Elle était frappée par les joueurs de l'intérieur de la main, la paume. Ancêtre de notre actuel tennis, pratiqué en simple ou en double, l'origine de ce jeu se perd dans les méandres de l'histoire et les pratiques similaires sont évoquées durant l'Antiquité. Sa période de gloire se situe en Europe occidentale et notamment en France au Moyen Âge. L'engouement pour ce jeu est à peine imaginable. Aujourd'hui, cela touchait toutes les couches sociales alors, du souverain au bas peuple, femmes et hommes, jeunes et vieux, en passant par le clergé, tout le monde tripote. Le succès du jeu de paume est tel qu'il convient un peu d'en codifier la pratique et d'en réglementer les lieux. La rue est l'espace premier du jeu et les auvents des marchands font de merveilleux filets, quelles qu'en soient les conséquences pour ceux à qui l'étoffe n'était pas destinée. Les accidents sont légion. Le clergé se voit sommé de ne pas s'adonner à une telle débauche en public. Les joueurs ne ménageant pas leurs efforts, il est inconvenant de se montrer suant et haletant, voire vociférant, au vu et au su de tous. En plein air, les espaces dédiés sont aménagés pour que la noblesse puisse s'adonner, dans un entre-soi, à la pratique du jeu de longue paume. En intérieur, c'est à la courte paume que l'on joue. Dans ce cas, on autorise la balle à rebondir sur les murs, ce qui se dit triper, et ça donne son nom à l'endroit. Les salles ainsi bâties dans les villes, mais aussi et surtout à proximité des résidences aristocratiques, sont gardies d'une galerie permettant aux spectateurs d'assister aux parties sans risquer pour leur intégrité physique. Des règlements précisent qu'il est interdit de blasphémer, quels que soient les efforts consentis pour épater la galerie. Revenons-en à notre tripot nanteuillais. Celui-ci se situait donc bel et bien là, à proximité de cette ruelle au nom devenu si clair à présent, à quelques dizaines de mètres du château des seigneurs devenus comtes de Nanteuil. Ceux-ci l'avaient donc certainement fait édifier pour leur pratique personnelle et pour répondre aux exigences de l'époque, comme aujourd'hui un court de tennis, un spa ou autres pratiques de golf agrémentent impérativement une résidence de standing. Un jeu de longue paume coexistait. Celui-ci se tenait plus haut et s'étendait en plein air entre deux rangées d'arbres. Ici, point de mur, si ce n'est ceux des bâtiments et clôtures alentour. À Crépy, la configuration était similaire. Le cours du jeu de paume, aujourd'hui transformé en parking à proximité du collège de Nerval, trouvait sa place le long des anciens murs des fossés qui existaient là jusqu'au XVIIe siècle. En témoigne d'ailleurs l'emprise de ce terrain aujourd'hui. Servait-il à la population ou au duc de Valois et son entourage? Il faut, en réalité, se dire qu'il a été dressé vers 1759 sous la forme d'un jeu de battoir. Alors, a-t-il succédé à un jeu de paume? C'est loin d'être impossible. À Villers-Cotterêts, la situation est bien plus claire. Ces espaces dédiés sont directement intégrés au château royal. Il faut dire qu'il a été bâti à partir de 1532 par deux redoutables joueurs de paume, François Ier et son fils Henri II. Comme toute la noblesse, les rois s'adonnent à cette pratique physique avec assiduité, et ils font montre de leur force et de leur tempérament guerrier. D'ailleurs, quelques années auparavant, le jeu de paume a provoqué un changement dynastique. En 1498, le dernier Valois direct, Charles VIII, roi de France de 28 ans, heurte violemment la tête le linteau d'une porte un peu trop basse de son château d'Amboise. Le souverain décède 10 jours plus tard des suites de cet accident, qui a été provoqué par un trop gros empressement à venir assister à une partie de jeu de paume. La passion pour ce jeu se transmet à tous les rois de France jusqu'à Louis XIV. Henri IV y mettra autant d'ardeur que dans toutes ses activités, nécessitant pour cela des fois de revenir chemise déchirée de ses parties endiablées. Le roi Soleil, lui, met un terme à cette activité royale, lui préférant sûrement, en raison de la goutte qui lui a fait souffrir, une autre passion, plus calme, plus confidentielle, le billard. De cet engouement, tant aristocratique que populaire, le Valois, comme tout le territoire, conserve donc de timides héritages. Il ne reste plus beaucoup de lieux où pratiquer le jeu de paume aujourd'hui. Cependant, la langue française, quant à elle, a conservé de nombreuses expressions populaires issues de cette mode d'un autre temps. En effet, outre tripoter, que l'on a déjà évoqué, les joueurs aimaient aussi peloter. Le terme n'avait pas le sens actuel. Quoique, il s'agissait d'évoquer ce geste consistant à se renvoyer la balle sans engager une partie. Ce que l'on pourrait rapprocher en langage amoureux, sinon grivois, du fait de s'échauffer un peu avant d'aller plus loin, de tâter le terrain en somme. D'autres expressions sont restées sans que l'on puisse forcément faire le rapprochement avec leur sens original. Nous avons vu que les joueurs cherchaient à épater la galerie. Ce n'est qu'un exemple. Jusqu'à l'adoption de la raquette, au début du XVIe siècle, toutes les couches sociales frappaient l'étoffe à main nue. À compter du XIIIe siècle, le gant apparaît pour protéger la paume, mais ne distingue pas encore clairement les classes sociales. C'est la raquette qui joue ce rôle de marqueur social fort, puisque l'objet est adopté par la noblesse qui cherche ainsi à se démarquer. Le jeu de main devient donc un jeu de vilain. Le métier de paumier, puis de paumier raquettier, consistait à fabriquer les attributs nécessaires à la pratique du jeu qui se transmettait ainsi de père en fils. Et comme beaucoup d'artisans, les enfants de la balle ont hérité du savoir-faire de leur père. Rapidement, c'est aux enfants de comédiens que l'expression a été attribuée. Enfin, les expressions tirées du jeu en lui-même ont fait floresse. Ainsi, on prend la balle au bon, en l'empêchant de tomber dans son camp. Si celle-ci parvient à toucher le sol au pied du mur, empêchant alors un renvoi de l'adversaire, on dit qu'elle tombe à pic. Et sitôt qu'un joueur se retrouve à terre, on dit qu'il reste sur le carreau, du nom de la surface du jeu. Pour en revenir à la ruelle du tripot, un raccourci historique amusant pourrait nous faire penser que finalement, le nom de la pratique a survécu à ce château qu'elle agrémentait. Le château de Nanteuil, lui, n'a pas survécu à la Révolution, déclenchée notamment par le serment du jeu de paume. Rappelons enfin que si les députés du tiers-état se sont réunis dans cette salle-là du château de Versailles, c'est que l'endroit était à la fois ouvert et assez vaste pour les accueillir alors que Louis XVI avait fait fermer la salle des menus plaisirs, lieu de la réunion des trois ordres. Un tableau de Jacques-Louis David représente la scène mythique et témoigne de la configuration des lieux. Ainsi, le passé étonnant du comté de Nanteuil-le-Haudouin, révélé notamment par cette inattendue ruelle du Tripot, n'apparaît plus aux promeneurs d'ailleurs peu nombreux aujourd'hui. Personne ne s'arrête plus de son plein gré à Nanteuil pour quelque escapade pleine de rêves d'histoire et d'architecture. Jusqu'aux années 60-70, et depuis des siècles d'ailleurs, Nanteuil était pourtant une étape sur la route de Paris à Villers-Cotterêts, Soissons, Maubeuge et la Flandre. Jusque-là, c'était le cas. Il y a une quarantaine d'années encore, on s'arrêtait aux stations-service, aux garages, aux restaurants et aux hôtels pour poursuivre un voyage comme c'était précédemment le cas avec les relais de poste.